Donc c'est la rentrée, hein. C'est pas la rentrée à l'église en tout cas, mais il paraît que c'est la rentrée. Bon, peut-être ce sera la rentrée pour nous la semaine prochaine. Nos frères et sœurs, tous nos amis qui ont des enfants, voilà, c'est la rentrée, il faut tout préparer. Les cartables, la liste des courses à faire. Voilà, je me souviens comme mon neveu, quand c'était la rentrée, c'était toute une aventure. Hein. Il fallait choisir les tennis, c'était compliqué, les chaussures de sport. Ah là, c'était toute une affaire de choisir les chaussures de sport qui lui plaisent. Et voilà, quand on n'a pas de sous, beaucoup de sous, ça fait des soucis. On se dit, ah bon, ça va passer. Pour les jeunes, cela approche à la rentrée, ou peut-être cela approche pas. Quand on a des fois, on est content de retrouver l'université, tout ça. D'autres fois, on se dit, bah, voilà, c'est fini pour moi les études, où je suis recalé, je ne peux pas poursuivre, je ne peux pas continuer. Qu'est-ce qu'il va arriver pour moi? Je n'ai pas de rentrée à faire cette année. Il peut y avoir beaucoup de tracasseries, j'imagine, à la rentrée. Hein. Quand on est retraité, comme moi maintenant, ou quand on est sans emploi, on n'a pas de rentrée non plus. Voilà, les jours se ressemblent tous. Et on voudrait bien peut-être faire une rentrée aussi. Les candidats politiques, eux, ils font leur rentrée. Ils ont tous des idées pour les prochaines réactions. Ils font leur rentrée politique. Alors, la rentrée, ça, difficile d'y échapper quand même, d'une façon ou d'une autre. Donc, on ne va pas parler de la rentrée. Je n'ai pas prévu de parler de la rentrée ce matin. Je n'ai pas parlé, oui, de la rentrée du travail. Enfin, je me rappelle, le travail, la rentrée des congés, c'était un tas d'emails à lire. Voilà, c'était cool. On racontait ce qui s'était passé, qu'est-ce qu'on avait fait pendant l'été, on retrouvait les collègues, ce qu'ils avaient fait, tout ça. C'était la rentrée. On ne va pas parler de rentrée. On va parler de quelque chose de bien différent, mais pas si loin quand même des préoccupations actuelles de notre monde. Il y a un Syrien qui s'est converti au judaïsme il y a 850 ans, c'était 850 ans avant Jésus-Christ. Et ce Syrien qui s'est converti au judaïsme, c'était un petit peu comme un petit peu comme maintenant. Il y avait Israël, et puis il y avait beaucoup d'ennemis autour, et puis on avait ce Syrien, cet ennemi d'Israël, qui s'est converti au judaïsme. Et c'est un événement qui est marqué dans la Bible, qui est consigné pour qu'on s'y intéresse. Et on va parler de ça. Le titre du message, c'est Être sauvé sans aller à Jérusalem. Être sauvé sans aller à Jérusalem. Et il s'agit donc de Naaman. On a passé de longs textes, de longs moments à parcourir l'histoire de Élisée, ce qui s'est passé de son temps, et là, en plein milieu, il y avait Naaman. Mais la Bible nous met en relief cette histoire de Naaman. Elle est importante. Et comment la Bible la met en évidence par une forme littéraire qui est utilisée dans la littérature hébraïque, qui s'appelle le chiasme. Comment je vais l'illustrer? Imaginez une personne qui voyage, c'est la saison ici, peut-être il fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, il voyage, et là il voit de loin, il y a des panneaux Figeac. Et puis quand il s'approche de Figeac, il voit des panneaux centre-ville ancien. Et il avance, et puis il voit des panneaux Musée Champollion. Ah. Et il avance, et il passe devant un bâtiment qui semble être, peut-être c'était ça, peut-être c'est ça le musée, et il continue et il voit des panneaux dans l'autre sens qui lui disent, ah, le musée Champollion c'était derrière, et il continue, et quand il sort de Figeac, ah, centre-ville de Figeac c'était derrière. Et là, tout à coup, il réalise, il devait y avoir quelque chose d'important avec ce musée Champollion. Je suis passé devant, je ne m'y suis pas arrêté suffisamment, je ne suis pas rentré dedans suffisamment peut-être. Et donc, je vais revenir en arrière et je vais voir ce musée. Et là, il est surpris de voir quoi, un musée qui parle de l'Égypte, des écritures anciennes, ici, en plein milieu de la campagne, à Figeac. Mais pourquoi? Quel est le sens de tout ça? Et il rentre. Et donc, un chiasme, c'est un petit peu ça, quelque chose qui nous montre quelque chose d'important. Et comment c'est Andrew Sack qui nous a introduit à ce livre des rois qui nous l'a fait remarquer, nous l'a fait remarquer. Quand on a lu le chapitre 3 du cycle d'Élisée, deuxième livre des rois, et le thème c'était une nation sauvée au chapitre 3. Au chapitre 4, c'était un reste de la nation qui est sauvé. Au chapitre 5, c'était un païen qui est sauvé. Au chapitre 6, c'était un reste sauvé. Et au chapitre 7, une nation sauvée. Et donc, ça fait ce qu'on appelle un chiasme, et ça pointe là le chapitre 5, un païen sauvé. Un texte qui est mis à l'honneur. Et pourquoi? Quand on y repense, cet étranger était un Syrien. Déjà, un Syrien pour un Israélite, c'était un petit peu, voilà, des ennemis. Hein. J'ai marqué un Syrien. Mais non seulement c'était un Syrien, mais c'était le chef de l'armée syrienne. Le chef de l'armée syrienne qui est mis à l'honneur. Alors, quand on est un Israélite, le chef de l'armée des ennemis, deux fois de quoi être repoussé. Et puis, on apprend d'autant plus qu'il était lépreux. Un lépreux. Alors là, le lépreux, on ne s'en approche pas. Trois raisons pour ne pas s'approcher de ce Syrien, et pour lui tourner la tête et pour dire, mais pourquoi Élisée l'a guéri de sa lèpre? Et dans ce texte, on le verra. On le révisera la semaine prochaine, puisqu'on l'avait déjà lu. Il y a la fondation, en quelque sorte, d'une ambassade d'Israël qui va avoir lieu en Syrie, à Damas même. Et il va y avoir là un endroit où, après la conversion de ce Syrien, il va y avoir un endroit où on adore l'Éternel, où on se prosterne devant lui, un petit peu de territoire israélien. Là, il va y avoir de la terre d'Israël là. Et un homme et sa famille, on peut supposer, qui va adorer l'Éternel, le vrai Dieu. Et tout ça, sans même aller au temple de Jérusalem. Il y a quelque chose, là, il y a quelque chose d'important dans cette conversion de Syriens. Dieu va nous parler. Et donc, on va prendre le temps d'écouter plus en détail la parole de Dieu et de façon plus macro. Ce qu'on a fait jusqu'à présent, on va regarder les choses d'un petit peu plus loin maintenant qu'on a tout parcouru dans le détail. Dieu sauve une nation. Elle sauve une nation. Dieu sauve une nation. Oui, il sauve une nation de ses ennemis, mais il sauve aussi la nation de son mauvais roi. Et comment cette nation est sauvée par la grâce de Dieu, parce qu'il y a là un prophète, un homme de Dieu en Israël, c'est Élisée. Pourquoi je dis que la nation est sauvée de son mauvais roi? Qui est le roi d'Israël à ce moment-là? C'est Joram. Et alors, on va voir d'un côté ce que la parole de Dieu dit sur Joram, au chapitre 3, donc on va lire 2 Rois 3. Versets 4 à 14. On va piocher un petit peu dans tous les textes qu'on a lus ces dernières semaines. On va faire un. Alors, 2 Rois 3, 4 à 14. Mécha, roi de Moab, possédait des troupeaux et il payait au roi d'Israël un tribut de 5 000 agneaux et de 5 000 béliers avec leur lait. À la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Akab était le père de Joram. Le roi Joram sortit alors de Samarie et passa en revue tout Israël. Il se mit en marche et il fit dire à Josaphat, roi de Juda, « Le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi, attaquer moi ?» Josaphat répondit, « J'irai, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Et il dit, « Par quel chemin monterons-nous ?» Joram dit, « Par le chemin du désert d'Édom. » Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent, et après une marche de 7 jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui le suivaient. Alors le roi d'Israël dit, « Hélas, l'Éternel a appelé ses 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel ?» L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, « Il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. » Et Josaphat dit, « La parole de l'Éternel est avec lui. » Le roi d'Israël, Josaphat et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël, « Qu'y a-t-il entre moi et toi ? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. » Et le roi d'Israël lui dit, « Non, car l'Éternel a appelé ses 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. » Élisée dit, « L'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais pas égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. » Et ensuite donc, il va annoncer la délivrance de ces 3 armées qui vont non seulement être délivrées de la famine, de la soif, mais également avoir la victoire sur Moab. Donc Joram, le fils de Akab et de Jézabel, hein, c'était les assassins du pieux Naboth. Ils avaient organisé l'assassinat d'un homme juste. Donc on le voit, il a fait un mauvais choix, hein. Il décide de passer par le désert de Édom. Et c'était sans doute pas une très bonne idée. De passer par Édom pour aller à Moab, parce qu'ils avaient décidé de traverser un désert. Et donc c'était la décision du roi Joram, ça. Et ils se trouvent après dans le désert, et là, ils n'ont pas d'eau, ils ont mal calculé la logistique. Il a fait un mauvais choix. Le choix de passer par le désert. Et on voit qu'il n'assume pas du tout sa responsabilité. Il dit, c'est l'Éternel qui a appelé ses 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab, alors que ce n'était pas l'Éternel qui avait décidé de passer par le désert d'Édom, c'était lui qui avait pris la décision de faire passer toutes les 3 armées par le désert d'Édom. Il fait des mauvais choix, il n'assume pas ses responsabilités, c'est la faute de Dieu. Et il est entêté quand il est devant le prophète, et il persiste. L'Éternel a appelé ses 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab, alors que c'était sa décision, il n'avait pas du tout demandé l'avis de Dieu sur la façon dont il fallait se rendre au combat. Et on voit qu'il ne compte pas du tout aux yeux de Dieu. Hein? Dieu fait grâce aux armées qui le suivent à cause de Josaphat, le roi de Juda, qui n'était pas lui non plus parfait, mais qui lui cherchait Dieu de tout son cœur. Hein? C'est ce qu'on retient de lui, de Chroniques 22, 9. Il est mentionné ainsi. Du roi Josaphat. D'un côté, donc, un roi qui fait des mauvais choix, qui lui assume pas ses responsabilités et qui persiste là-dedans. Et d'un autre côté, si on va voir au chapitre miroir du chapitre 5, chapitre 6, versets 8 à 10, on lit ceci qui concerne le roi Joram. D'autres circonstances, une autre guerre. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans un conseil qu'il tient avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera dans tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Garde-toi de passer dans ce lieu car les Syriens y descendent. » Verset 10. « Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu qui lui avait mentionné l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. » Ensuite, versets 18 à 31, les Syriens descendirent vers Élisée, donc qu'il dénonçait au roi toutes leurs manœuvres, au roi qui révélait toutes leurs manœuvres. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière. À l'Éternel, daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin, ce n'est pas ici la ville, suivez-moi, je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit, cette troupe de Syriens, à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, « Frapperai-je ? Frapperai-je, mon père ?»« Tu ne frapperas pas, » répondit Élisée. « Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc ? Donne-leur du pain, de l'eau, afin qu'ils mangent et qu'ils boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. » Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas. Ils mangèrent et burent. Puis il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître, et les troupes de Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Un petit peu plus loin, verset 25-24, nouvelle séquence. Le roi Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il eut une grande famille dans Samarie. Ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 sicles d'argent et leur quart de cap de fiente de pigeon 5 sicles d'argent. Et comme le roi passait sur les murailles, une femme cria « Sauve-moi, au roi, mon seigneur !» Il répondit « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je ? Avec le produit de l'air ou avec le produit du pressoir ?» À travers ces textes, on voit que c'est un roi qui écoute ce que Dieu dit. Au début, on voit quand il s'agissait d'écouter les révélations, prenez au sérieux les révélations de ce que lui disait Élisée. Quand il lui disait « les armées syriennes vont à tel endroit », il envoyait bien les troupes à cet endroit-là. On le voit qu'il demande à Dieu, quand il a cette troupe de Syriens au milieu de Samarie, qu'est-ce qu'il doit faire ? Et on voit qu'il obéit quand Élisée lui dit « Renvoie-les chez eux, donne-leur à manger, renvoie-les chez eux. » C'est ce qu'il fait également. Et là, au verset 27, on voit que également c'est un roi qui demande, qui confesse sa dépendance à Dieu. « Si l'Éternel te sauve quoi, moi, te sauve pas moi, avec quoi je pourrais te sauver ?» Il reconnaît sa faiblesse. Donc tout ça, de l'autre côté, il y a des choses qui semblent positives chez ce roi. Toutefois, on se souvient qu'il n'a pas la foi en Dieu. Verset 31, plus loin. Le roi dit « Que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. » Par rapport à toute cette famine auquel était confrontée la ville de Samarie, il se révolte contre Élisée, donc contre Dieu, et il n'a pas du tout foi en lui. Et plus tard encore, quand Dieu va annoncer la délivrance, quand la délivrance va s'exécuter, il ne va toujours pas avoir la foi. Il il ne va pas croire que Dieu délivre et sauve réellement son peuple. Il y avait un problème de foi. Donc d'un côté on voit des bonnes choses, de l'autre côté on voit des choses moins bonnes. Quel est le problème central du roi Joram? Ben, le problème central, on le trouve au chapitre 5, hein, chapitre qui est notre flèche là, avec la question de l'arrivée de Naaman à Samarie. Donc Naaman est envoyé par le roi de Syrie, des ennemis donc, à Samarie, donc le chef de l'armée arrive à Samarie. Verset 5, le roi de Syrie dit à Naaman, rends-toi à Samarie, parce qu'il a vu le témoignage de la petite fille, donc comme quoi le prophète le guérirait. Rends-toi à Samarie, j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 sicles d'or, des vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi, afin que je guérisse un homme de sa lèpre ? Sachez donc, comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Et lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Joram, dans ce passage, est un petit peu le roi tout-puissant, impuissant. Le roi tout-puissant, impuissant. Quand on regarde, le roi de Syrie s'adresse à lui en lui demandant qu'il guérisse Naaman. Et lui, il pense que c'est lui-même de le guérir. Il se voit comme si c'était lui, le Tout-Puissant, qui doit résoudre ce problème de guérison. Et il dit, mais je ne suis incapable de le guérir. Ce roi, il cherche un prétexte pour me faire des histoires. Un roi tout-puissant, impuissant. Il pense que c'est son rôle de guérir Naaman. Et il se sait impuissant, il sait qu'il est incapable de guérir Naaman. Et un roi qui a peur des hommes, à travers tout ça, il soupçonne une provocation du roi de Syrie. Alors là, il y a un petit paradoxe. Pourquoi ce roi réagit de cette manière quand il est demandé de guérir un prophète? Pourquoi il se voit, lui, concerné par ça? Pourquoi se voit-il à ce moment-là comme s'il était tout puissant pour guérir alors qu'en fait il ne l'est pas? S'il savait qu'il était impuissant, pourquoi ne demandait-il pas la chose à Dieu? Pourquoi ne se tournait-il pas à Dieu pour avoir le secours, pour l'aider et pour satisfaire à la demande du roi de Syrie? Toutefois, Dieu rend grâce à son peuple. À plusieurs reprises, il l'a délivré grâce à la présence de Élie au milieu d'elle, malgré le roi Joram. Joram était un mauvais roi. On peut dire qu'on a vu pire. Il y a de bons côtés, il y a de mauvais côtés. Mais le point de vue de Dieu, c'est qu'il est un mauvais roi. Et ça, la Bible nous le dit dès le départ. Chapitre 3, verset 1. Joram, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie la 18e année de Josaphat, roi de Juda, et régna 12 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme son père et sa mère. Il renversa les statues de Baal que son père avait faites, mais il ne se livra au péché de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna pas. Il fit ce qui est mal. D'un côté, il abat le statut de Baal, mais de l'autre côté, il poursuit dans la voie de Jéroboam. Jéroboam, Joram est un mauvais roi pour les mêmes raisons que Jéroboam avait été un mauvais roi. Et donc là, ça nous demande bien sûr de revenir un peu en arrière, mais qu'est-ce que c'était ce roi Jéroboam? La Bible, comme ça, il y a une suite, il y a une logique dans le texte, et bien sûr, on le comprend, et des fois, il faut revenir un petit peu en arrière. Et là, on va lire juste ce qui concerne l'histoire de Jéroboam. C'était dans le premier livre des rois. Le roi Salomon, donc, est devenu idolâtre à la fin de sa vie et Dieu le sanctionne en fractionnant le pays en deux. Royaume du Nord, confié à Jéroboam, donc, et le royaume du Sud qui reste à la descendance du roi David. Et donc, au début, tout va bien pour Jéroboam, mais à un moment, il se dit, je vais empêcher les Israélites d'aller adorer Dieu au temple de Jérusalem. Et il construit pour cela un veau d'or et demande d'advenir adorer le veau d'or, de ne plus aller à Jérusalem. Donc, c'est le premier livre des Rois, chapitre 12. Que l'on dit ça. 1 Roi 12, 26 à 33. Donc il a fait des constructions, il s'est installé, il s'est conforté dans sa position de roi des 10 tribus du Nord. Puis il dit dans son cœur, 12, 26, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son seigneur, à Roboam, roi de Juda. Ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après avoir demandé conseil, le roi fit deux veaux d'or. Il dit au peuple, assez longtemps vous êtes monté à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison, des hauts lieux, et créa des sacrificateurs pris parmi le peuple qui n'appartenaient pas aux fils de Lévi. Il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qu'on célébrait en Juda. Et il offrit des sacrifices sur l'autel. Et voici ce qu'il fit à l'autel afin qu'on sacrifie au Dieu qu'il avait fait. Il le plaça à Bethel. Il plaça à Bethel des prêtres des hauts lieux qu'il avait fait. Et il sacrifia sur l'autel qu'il avait fait à Bethel le 15e jour du 8e mois qu'il avait choisi selon son gré. Et il fit une fête pour les enfants d'Israël. Il monta sur l'autel pour brûler les parfums. Et là, la sanction va tomber dans le texte qui suit. Voilà le péché de Jéroboam. Il était à un moment donné, il a empêché donc les Israélites d'aller adorer à Jérusalem. Or, Jérusalem, c'était explicitement le lieu en Deutéronome qui avait été désigné un seul lieu parmi les tribus où on devait adorer l'Éternel. Nulle part ailleurs. Une fois que le temple était institué, c'est là qu'on devait aller offrir les sacrifices et nulle part ailleurs. C'est Deutéronome chapitre 12, versets 4 à 14 qui précise et martèle ces choses. Je vais vous lire le texte. Parce que c'est bien insisté qu'on ne devait pas aller ailleurs. Vous chercherez l'Éternel à sa demeure, verset 5, et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisit parmi toutes les tribus pour y placer son nom. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes, en accomplissement d'un vœu, vos offrandes, vos dons de terre, les premiers-nés de votre gros, menu bétail. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel, votre Dieu, et que vous et vos familles vous ferez servir. à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel, votre Dieu, vous aura béni. Vous n'agirez donc pas comme nous faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon, parce que vous n'êtes pas encore arrivé dans le lieu de repos, l'héritage que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Mais vous passerez le Jourdain, vous habiterez dans le pays de l'Éternel, votre Dieu, vous accordera la possession, il vous donnera du repos, après vous avoir délivré de tous vos animaux qui vous entourent, et il vous établira en sécurité, c'est ce qui s'est passé avec Salomon. Il y aura un lieu. Alors il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes choisies, que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. C'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel, etc. Empêcher les Israélites d'aller à Jérusalem, c'était empêcher de s'approcher de Dieu comme Dieu voulait. Donc c'était quelque chose de grave. Par ailleurs, Salomon, à l'inauguration des temples, il avait fait de très belles prières par rapport à l'exaucement. Il avait demandé que dans ce lieu, lorsqu'on s'adresserait à lui, les prières seraient exaucées. C'est une très belle prière qu'on trouve à 1 Rois chapitre 8. Et Dieu a manifester sa présence après, agréer ses prières, et donc le lieu par excellence pour prier Dieu, c'était le temple de Jérusalem. Donc Jéroboam méprisait les commandements de Dieu. La royauté que Dieu lui avait donnée était devenue plus importante que Dieu lui-même. C'est ce qu'on appelle l'idolâtrie, car il y a quelque chose qui devient plus important que Dieu. Et c'est ce qui s'est passé pour Jéroboam. Le don, le cadeau que Dieu lui avait donné à le placer en roi, c'est lui qui l'avait fait, devenait plus important à ses yeux que celui qui lui avait donné la royauté. Et c'était une faute très grave que de devenir ainsi idolâtre. Les conséquences ont été immédiates. Donc, de favorisé par Dieu, il est devenu passé ennemi de Dieu. Sa descendance allait être détruite quelque temps après. Et d'une personne qui était libre, il devient une personne esclave des hommes. La crainte de Dieu avait été remplacée par la crainte des hommes, la crainte qu'on lui prenne son trône. C'est ça, les idoles, on les fabrique. On se met à croire en elles, on les adore. Mais tout ça, c'est pour notre malheur. Et bien sûr, les Israélites ont fait la frais de tout ça. Ils ont tous été privés de la bénédiction de pouvoir se rendre à Jérusalem pour rendre un culte authentique à l'Éternel. Jéroboam était devenu un mauvais roi et il a été imité par tous ses successeurs du royaume du Nord. Mais Dieu, cependant, a sauvé la nation de ce mauvais roi à plusieurs reprises. Car Joram, donc, il est devenu comme Jéroboam. Pendant 12 ans, on a vu qu'il ne s'en est pas détourné de cette façon d'adorer. Alors qu'il y avait une malédiction qui posait sur sa tête en tant que fils d'assassin, alors que, contrairement à Jéroboam, il était en paix avec Juda. Josaphat lui était favorable et il n'y avait aucune difficulté pour que les Israélites puissent se rendre à Jérusalem. Bon, que retenir de l'histoire de ce roi Joram, c'est que nous on peut aussi lui ressembler un petit peu. Hein. On n'est pas roi bien sûr, mais des fois on a des responsabilités. On a des responsabilités dans notre travail, on a des responsabilités de parents dans notre famille, on peut avoir des responsabilités dans l'église. Et quand notre fonction, ce qu'on a devient plus important que la personne qui nous l'a donné, à ce moment-là, on est en danger. Mais Dieu a sauvé la nation du péché du roi Joram et heureusement, il ne peut nous sauver également lorsqu'on dévie comme ça. Joram était fils d'Akab, fils d'assassin, Et nous savons, la Bible nous sait que nous sommes des fils d'Adam et notre premier parent a été un rebelle, lui aussi. Hein, un petit peu comme moi qui s'était révolté. Lui aussi s'est révolté. Joram, il s'est entêté pendant 12 ans à adorer Dieu à sa façon, c'est-à-dire pas à Jérusalem. Et notre culture aussi nous porte à adorer Dieu à notre façon. Chacun sa croyance, chacun sa vision du monde, chacun sa religion. Même l'athéisme est une forme de religion, elle a ses croyances, elle a ses récits, elle a ses adeptes. Tout ça pour dire que Jésus-Christ, notre culture dit que Jésus-Christ n'est pas le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. Notre culture nous porte à adorer Dieu à notre façon, chacun à notre façon. Joram a la crainte des hommes. Il a peur qu'ils lui tournent le dos pour aller en Judée. Nous aussi, on peut avoir la crainte des hommes, on peut avoir peur de perdre nos likes, hein, d'être poussé dehors, qu'on nous tourne le dos, qu'on soit mis de côté, qu'on soit rejeté, qu'on perde son travail, qu'on perde toutes sortes de choses. Joram et nous aussi, on peut avoir la crainte des hommes. Et Joram est paradoxal. Il se croit ou se veut se montrer tout-puissant et il sait qu'il est impuissant. Et nous aussi, nous pouvons vivre avec ce paradoxe. Hein. Nous croyons où nous voulons passer pour être des gens bien, des gens heureux, des gagnants, des gens qui réussissent, qui arrivent à gérer. Et au fond de nous, on sait bien que nous sommes des personnes souvent en échec, nous ne sommes pas heureux et on se considère, quand on est face à un miroir plutôt, comme des perdants que des gagnants. On peut nous-mêmes se sentir comme étant une mauvaise personne. Mais notre texte dit de regarder à l'histoire de Naaman. Ce lépreux syrien a été sauvé. Et par rapport au tort que l'on peut causer au peuple qui nous entoure, à tous ceux qui nous entourent, à cause de notre péché, Dieu s'est sauvé. Heureusement, Dieu s'est sauvé son peuple, même si. Il peut le sauver même sans aller à Jérusalem. Dieu sauve son peuple. Dieu sauve un reste. Quand on s'approche de Naaman, il y a des textes qui parlent donc des fils des prophètes. Les Israélites du Nord étaient empêchés d'aller à Jérusalem pour rendre un culte. Il y en a que ça devait arranger très bien. Pas de voyage à faire, pas de frais, pas de dépenses. Et la majorité des Israélites se satisfaisait pleinement du culte du veau d'or. Mais d'autres voulaient rester fidèles à Dieu, et ceux-là ont eu beaucoup de difficultés. Comment vivre quand on est empêché d'adorer Dieu de la bonne façon? Comment vivre quand on est à contre-courant? Dieu sait sauver les siens. Comment cela se passe? On peut regarder un petit peu ce petit groupe des fils des prophètes. On ne va pas relire tous les textes. Mais on voit que ils vivent, donc ces personnes qui sont empêchées de rendre le culte à Dieu comme ils le souhaiteraient, comme ils le voudraient. Ils sont en communauté. Ils appartiennent à une communauté. Et être en communauté, c'est être plus fort. On peut se soutenir. On est plus solide pour résister. Hein? Et également, c'est plus facile pour être enseigné quand on est ensemble. Le prophète venait, Élisée venait, il enseignait, et c'était beaucoup plus simple. Être en communauté, ça, on voit que ces personnes-là sont en communauté. On voit qu'également, ils prennent des initiatives dans tous ces textes. Hein. Élisée les encourage à se débrouiller s'ils n'ont pas à manger. Voilà, faites un potage, faites de la soupe. Hein? Il est avec eux également pour les encourager quand ils prennent l'initiative de construire un nouveau lieu de rassemblement. Il est avec eux, il les encourage à prendre des initiatives. On voit la tsunamite également qui a l'idée, bah, je vais construire une maison, une pièce pour pouvoir accueillir l'homme de Dieu quand il est de passage. Prendre une initiative, appartenir à une communauté, prendre des initiatives, être généreux également. L'huile coule généreusement du vase de la pauvre veuve qui peut remplir avec cette huile qui coule si généreusement une multitude d'autres vases. Et ces textes nous encouragent à la générosité. Élie partage généreusement le repas qu'il a reçu avec les 100 personnes qui sont avec lui. Et Dieu fait multiplier le pain pour que tout le monde mange à sa faim. Être généreux. La tsunamite aussi, elle a offert généreusement le couvert, l'hospitalité au prophète quand il pensait dans la région. En communauté, ils prennent des initiatives, ils sont généreux. Et on voit aussi qu'ils sont faibles. Mais Dieu fait des miracles dans leur quotidien. Ce n'est pas des super champions. On voit qu'ils peuvent se trouver dans des situations de surendettement, comme la veuve du début. Elle est surendettée, ses enfants, elle va les perdre. Ils vont partir, en quelque sorte, à l'assistance sociale. Maintenant, ça se passerait comme ça. Dieu intervient pour cette personne. Il fait des miracles pour elle. Dieu fait des miracles également pour rattraper leur manque de sagesse. Quand il y en a un, en faisant le potage, il s'est débrouillé pour amener des plantes empoisonnées dedans. Mais Dieu a fait grâce. Le prophète a mis la farine. Le potage a été purifié. Ils ont pu le consommer. Et celui qui avait été maladroitement perdu son hache dans l'eau, et le prophète est intervenu. La hache s'est mise à flotter à la surface. On a lu ces textes et il a pu la récupérer. Ils sont faibles, mais Dieu fait des miracles dans leur quotidien. Dans leur quotidien. Dieu les sauve dans leur quotidien. Il les sauve dans leurs problèmes, dans leurs aspirations spirituelles, personnelles également. Dieu prend soin de chacun. Cette dame avait envie d'un enfant, elle avait besoin d'un enfant. Dieu a répondu. Il est dans leurs problèmes et leurs aspirations collectives également. Quand ils ont voulu faire cette construction, et face au deuil, il est là également. Ils sont faibles. Ils ne peuvent pas aller à Jérusalem prier. Ils ne peuvent pas se rendre au temple du Jérusalem apporter leurs offrandes. Mais Dieu pourvoit, Dieu est avec eux, grâce au prophète. Et quel rapport avec notre situation à nous? Jésus-Christ a quitté la Galilée au nord et il s'est rendu à Jérusalem apporter son offrande. Il s'est offert lui-même un sacrifice pour tous ceux qui croiraient en lui. Il est ressuscité et il est monté au ciel. Jésus a fait ce chemin jusqu'à Jérusalem. Il est passé du nord au sud et il a amené sa vie en offrande pour les péchés de tous ceux qui croiraient en lui, en offrande pour tous les sacrifices de reconnaissance. Il a accompli tout cela pour nous. En croyant en lui, nous n'avons plus besoin d'aller à Jérusalem pour offrir nos sacrifices, pour trouver le pardon, pour célébrer la communion avec Dieu. Ce n'est plus nécessaire d'aller à Jérusalem. C'est vrai qu'il est au ciel, nous sommes privés de sa présence, un petit peu comme nos fils des prophètes ici. Ils étaient quand même dans une situation qui n'était pas la meilleure. Nous sommes privés de sa présence dans une culture hostile à Jésus-Christ d'ailleurs, mais nous avons le Saint-Esprit. Et Dieu fait des miracles pour nous sauver au quotidien. Donc, être sauvé, sans aller à Jérusalem. Et donc, nous verrons la suite la semaine prochaine, être sauvés sans accomplir la loi de Moïse. C'est l'étape suivante que nous verrons la semaine prochaine. On peut prier maintenant. Seigneur, oui, notre Seigneur, combien nous avons besoin de toi dans notre vie quotidienne. Merci pour la façon dont tu prends soin de nous, même quand nous n'en avons pas conscience. Tu veilles sur nous et tu ne nous lâches pas du regard dans notre pèlerinage sur cette terre en attendant que Jésus-Christ revienne. Tu ne nous laisses pas à l'abandon, tu permets qu'il y ait des communautés pour nous retrouver. Tu permets, Seigneur, de pourvoir généreusement à nos besoins. Tu nous encourages à vivre pleinement, à saisir toutes les opportunités que la vie nous, que cette vie nous, qui peuvent se présenter à nous pour servir notre prochain, pour servir nos familles, pour servir à ceux que nous aimons, pour être généreux. Et tu es celui qui voit nos aspirations profondes également, qui sait répondre aux prières secrètes de notre cœur. Seigneur, tu es un Dieu qui prend soin de nous. Merci. Merci également pour la façon dont tu sauves la nation. Seigneur, il n'y aura pas de bon roi capable de faire une bonne gestion des affaires terrestres en attendant jusqu'à ton retour. C'est toi le vrai roi, c'est toi celui qui peut établir un règne qui nous permette de pleinement pouvoir nous approcher de Dieu en toute assurance et en toute joie. Seigneur, mais merci parce que tu fais grâce aux nations, tu fais grâce à notre pays, tu permets que cela fonctionne, que nous soyons en paix, en sécurité et en liberté. Aide-nous dans notre détresse, si nous, dans la position que nous savons, que nous avons, on n'a pas de grandes responsabilités, mais des fois on en a quelques-unes, et des fois on peut mal les exercer. On peut les exercer en oubliant que c'est toi que nous devons servir et honorer en premier. Et Seigneur, merci de ce rappel que l'on voit à travers cette histoire de Jéroboam. Garde-nous loin de tout cela, Seigneur. Et merci, oui. Dans le nom de Jésus. Amen.